happy.
Good morning.
Really happy.
Good morning.
To be with you. With you. With you.
Happy.
Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast francophone qui parle de crypto-art, de NFT, de collection NFT. C'est Rem qui vous parle ce matin et je suis très heureux de retrouver ma chère Ingrid. Salut Ingrid.
Salut Rem, ben moi aussi je suis très contente de vous retrouver sur la room juridique du mois. Voilà, donc celle
tu nous avais manqué. Voilà, ça fait plusieurs mois que tu n'étais pas avec nous, donc merci en tout cas de revenir.
Je suis revenue au printemps, tu vois.
Exactement, et tu es revenue avec un super sujet, une super invitée, et que je te laisse d'ailleurs nous présenter.
Eh bien, Amélie Favreau, qui est donc docteur en droit, qui va se présenter plus précisément, et qui est une des juristes à avoir une position ouverte sur les NFT et qui écrit merveilleusement bien. Amélie, qui es-tu ?
Bonjour, bonjour Ingrid, bonjour Rémi. Merci avant toute chose de m'inviter à partager avec vous ces travaux de recherche sur les NFT. Alors, qui je suis ? Je suis professeure des universités à l'université Grenoble-Alpes. Mes champs de recherche sont le droit de la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est droit d'auteur, droit des brevets, droit des marques, et aussi le droit du numérique avec les technologies émergentes, donc intelligence artificielle, NFT, métavers, blockchain, etc. Et plus spécifiquement sur la blockchain, j'ai pris un an en Écosse pour aller l'étudier dans un département d'informatique. Donc voilà, une juriste tournée vers l'informatique dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le Blockchain Laboratory à Édimbourg. Et j'ai travaillé là-bas aussi avec le professeur Schaeffer pour essayer de comprendre comment fonctionne une blockchain, comment s'implémentent des smart contracts et comment circulent des NFT. Et quels sont les impacts juridiques de toute cette circulation de la valeur.
Génial, donc tu es au cœur de l'écosystème, une des rares juristes, une des rares professeurs d'université à être au cœur, et donc c'est super. Je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
Et je tiens juste à saluer John qui vient d'arriver aussi, pardon Ingrid. Salut John.
Salut John. Alors, donc,
good morning, GMGM.
Good morning.
Bonjour.
Donc, on va parler de collection, on va parler de vous tous, des collectionneurs qui sommes là. Et tout de suite, je vais rentrer dans le cœur du sujet. Eh bien, Amélie, qu'est-ce qu'une collection en droit ? Et par exemple, est-ce qu'il y a des critères juridiques qui identifient une collection déjà, qui permet de dire qu'en droit, il y a un statut ? Et ben, par exemple, le nombre, est-ce que, tu vois, deux NFT, ça peut constituer une collection au sens juridique du terme ?
Alors, c'est une bonne question, Ingrid. Je te remercie de commencer par ce point-là parce que la collection, elle est définie dans plusieurs codes. Donc, on a le code de la santé qui va définir des ressources génétiques et des échantillons biologiques comme des collections. On a également le code dans le domaine des collections publiques, donc plutôt un code en lien avec la domanialité publique, le domaine public, etc., qui va définir ce que c'est qu'une collection publique dans ce sens. On a d'autres codes comme le code général des impôts, qui va saisir aussi ce terme de collection. Alors peut-être plus particulièrement dans le domaine de l'art. Pour autant, on n'a pas de définition spécifique qui pourrait correspondre parfaitement à la notion de collection de NFT, tu vois. La collection de NFT, c'est vraiment quelque chose de très particulier. On peut pas le raccrocher, par exemple, à la collection publique, parce que dans ces collections publiques, on retrouve plutôt les œuvres des musées. Et on distingue le support, donc l'œuvre du musée, du NFT qui éventuellement peut y être attaché. Le NFT ne pourra pas être assimilé à cette collection publique qui est saisie par ce code-là.
Par exemple, ouais, ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Bah, par exemple, il y a eu des NFT qui sont rentrés dans la collection publique de Beaubourg en 2023. Et quand ça rentre dans une collection publique, c'est assimilé au Trésor national. C'est-à-dire qu'il y a un statut vraiment particulier qui fait qu'ils sont en principe inaliénables ou ils doivent être, pour être vendus, ils doivent passer dans une commission, etc. Donc il y a quelque chose d'un statut très fort. Donc les NFT qui sont rentrés au musée national de Beaubourg, il y a aussi les ventes d'un souvenir qui sont adossées, comme tu le disais, à une œuvre à une œuvre qui appartient donc non pas au domaine public mais au domaine du Trésor national, par exemple ceux qui étaient vendus à Orsay, hein, sur ceux de la nuit de Van Gogh. Est-ce que ces NFT là donc rentrent dans le domaine de l'État, c'est-à-dire peuvent être qualifiés de trésors nationaux finalement?
Je pense que c'est une bonne question. Et j'aurais tendance à distinguer deux types de NFT. Dans les exemples que tu as cités, il y a d'une part les NFT, comme on a pu les retrouver avec le British Museum aussi, des NFT qui étaient par exemple constitués sur les œuvres d'Hokusai, oui, voilà, par exemple. Donc ça, c'est un type de NFT qui serait inscrit plutôt à titre conservatoire, j'aurais tendance à penser, où les musées vont utiliser l'outil blockchain et l'outil NFT en vue de conserver un patrimoine national. Ça, c'est une première utilisation du NFT, et dans cette utilisation, dans cette qualification, parce qu'en droit on parle de qualification, il me semble que les NFT n'entrent pas dans cette catégorie de trésors nationaux, parce qu'ils ne sont qu'un outil, technique en vue de la conservation d'une œuvre, du support de l'œuvre qui est dans le musée. Et le trésor national, c'est la peinture telle qu'elle est accrochée, la vague de Poussail telle qu'elle est accrochée dans différents musées.
D'accord, donc ça, c'est quand c'est des produits dérivés.
On va dire ça,
ouais,
oui.
D'accord. Ouais.
Et après, tu as la seconde hypothèse que tu viens de citer sur les NFT de Beaubourg. Ouais. Et là, moi, j'ai une interrogation. D'ailleurs, je serais ravie d'en débattre avec la communauté. J'ai une interrogation sur le fait de savoir, est-ce que le NFT est considéré donc en tant que programme informatique inscrit sur la blockchain, n'est considéré que comme une empreinte, et donc ce qui entre comme trésor national et ce qui est dès lors protégé à ce titre, avec une protection encore plus forte même que ce que pourrait donner le droit d'auteur, est-ce que ce n'est pas que l'image numérique qui est associée à cette empreinte cryptographique? Et j'aurais tendance à le penser, c'est-à-dire que ce qui est protégé au titre des trésors nationaux, voilà comme tu le soulignais, ce n'est que l'image numérique. Image numérique dont l'unicité est reconnue et permise par cette empreinte NFT et dont la rareté est organisée après par le smart contract.
Donc en fait, est-ce que ça peut être assimilé à ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les installations, les ex-installations vidéographiques et même les œuvres numériques comme celle de Bill Viola, par exemple, qui sont à ses côtés, ou celle de Refik Anadol qui est rentrée au MoMA, ou encore des pionniers de l'œuvre numérique qui étaient déjà là avant même le NFT. Donc en fait, on reviendrait vers cette qualification-là.
J'aurais tendance à le penser et je pense que ça serait plus juste juridiquement de parler comme tu viens de faire avec ces différentes œuvres numériques, de parler d'œuvres numériques plutôt que de NFT en tant que tel.
D'accord, bah écoute, c'est intéressant d'avoir fait ce parallèle. Est-ce que John ou Rémi, vous avez des questions sur ce point-là?
Moi, c'est bon.
Ok. Alors après, on a deux possibilités de statut que tu as évoquées dans un de tes articles qui est formidable. Et moi, j'ai été particulièrement sensible au statut qu'il y a en droit d'auteur, qui est le statut d'œuvre de l'esprit. Donc finalement, la collection, bon, on va dire qu'elle est constituée de plusieurs pièces. Donc les plusieurs, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de critères finalement là-dessus. Donc ça peut être au moins deux quand même, oui, et plus. Et donc est-ce que donc on a une jurisprudence qui a été rendue, je crois que tu la connais, la jurisprudence de Langlois au sujet de la Cinémathèque, et qui a jugé que l'ensemble des œuvres qui avaient été réunies et constituées par donc ce grand curateur et cinéaste, constituer une collection. Est-ce que là, quand on a une collection de NFT, la collection en elle-même, et pas simplement les œuvres qui la composent, peuvent être considérées comme une œuvre unique?
Oui. Oui, oui, et on a effectivement cette décision Langlois, mais on a aussi beaucoup plus ancien l'anecdote jurisprudentielle d'un collectionneur de voitures. Et on avait, et à ce moment-là, le juge avait également reconnu qu'on était entré dans une collection et qu'il avait fait des choix libre et créatif dans la composition de cette collection. Mais c'est quelque chose qui reste soumis à l'appréciation du juge. Mmh. Et donc, j'ai un contre-exemple, on va dire, de création de collections non protégeables, par exemple des collections d'ouvrages, avec une collection d'ouvrages qui présente un certain nombre de caractéristiques communes, mais le juge a considéré dans cette hypothèse-là qu'il n'y avait pas de création distincte et donc protégeable par un droit d'auteur distincte de la protection qui était déjà accordée aux différents ouvrages.
D'accord. Est-ce que tu penses que une collection d'artistes renommés, donc ou en voie d'être renommés, hein, je fais pas de discrimination, mais comme une collection par exemple de plusieurs œuvres, ben par exemple de Pascal Boyard ou de Alex Boyosan, parce que moi j'en ai pas mal. Est-ce que tu penses que une collection d'artistes par rapport à une collection de même coin ou une collection de blue chip, comme les CryptoPunks et les Bored Apes, est-ce que tu crois que ça a une influence sur cette qualification d'œuvre de l'esprit, que ce soit, entre guillemets, purement des œuvres numériques d'artistes qui ont qui sont en mesure de retracer la genèse de leur création? Ou bien tu vois une différence avec cette collection d'images plutôt humoristiques, hein, on va aller au plus simple, dans la qualification d'œuvre de l'esprit, dans la qualification donc du tout qui pourrait former une œuvre en elle-même et qui a des conséquences sur le statut qu'on verra après, sur le régime plutôt, pardon.
Oui, oui. Écoute, je te remercie de me poser cette question parce que je pense qu'elle est importante dans le milieu des NFT parce qu'elle interroge l'articulation du sous-jacent, donc de l'œuvre numérique, avec le droit d'auteur. Le droit d'auteur est par principe indifférent au mérite. Donc, ça signifie que la renommée de l'artiste, son rayonnement international même, n'aura pas d'incidence sur le fait de reconnaître l'œuvre numérique comme protégée ou non par un droit d'auteur.
Tu veux dire que la collection serait une œuvre numérique en elle-même et elle, voilà, protégée ou non par le droit d'auteur.
Alors, je parlais plutôt des œuvres prises en tant que telles, individuelles.
D'accord.
Voilà. Mais si tu veux, après, on pourra monter d'un niveau et regarder l'ensemble. Donc, déjà, petite précision sur l'œuvre en tant que telle. L'œuvre numérique en tant que telle. Le droit d'auteur va plutôt s'attacher à regarder le travail de l'artiste. Et pour apprécier si l'œuvre mérite une protection au titre du droit d'auteur, on va étudier si l'artiste a marquer son œuvre de sa personnalité. Est-ce qu'à un moment donné, cette œuvre est le reflet de sa personnalité? Est-ce que il a mis de lui dans son œuvre? Est-ce que il a fait des choix suffisamment importants, suffisamment marquants pour qu'on l'associe à cette œuvre? Et les exemples que tu as cités d'œuvres numériques auxquelles sont attachées des NFT me semblent assez parlants.
Donc, ça veut dire que, en gros, si on identifie un style particulier d'un artiste, comme Pascal ou Alex, hein, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, on va dire que le NFT en lui-même, avec une œuvre numérique qui est liée, peut être une œuvre d'art au sens du code de la propriété intellectuelle.
C'est ça, et pourra recevoir une protection au titre du droit d'auteur. Ce qui pose la question, il me semble, de la génération de ces images numériques par l'intelligence artificielle. Et là, on a un croisement de deux technologies, en fait. Parce que on voit bien dans ces séries, tu citais Bored Ape Yacht Club, tu en as cité un autre.
CryptoPunk.
Ouais, voilà, les CryptoPunk aussi. Donc.
Les Moonbirds, etc.
Ouais, exactement. Et donc, il me semble qu'il faut arriver à déterminer quelle est la part de la machine et quelle est la part de l'artiste dans ce type de production. Si la part de la machine est particulièrement, donc j'entends par machine système d'intelligence artificielle, hein, de génération de ces objets numériques, que j'appelle pas œuvre. Petit clin d'œil qu'on voit pas à la radio. Si la part de la machine est plus importante que celle de l'artiste, alors à ce moment-là, de l'esprit. Ah. Et donc, s'il n'y a pas de qualification d'œuvre de l'esprit, il n'y aura pas de protection par le droit d'auteur.
Ça pose un problème pour l'art génératif qui vient directement du code, en fait.
Et c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que ça signifie que on ne sera pas en présence d'une collection? Pas forcément. On peut être en présence d'une collection avec des images numériques à l'intérieur qui ne sont pas saisies par le droit d'auteur, enfin qui ne sont pas protégées par le droit d'auteur. La seule chose, c'est que les artistes, les artistes entre guillemets, qui auront produit ces images numériques ne pourront pas se défendre contre une éventuelle reproduction de leurs images sans leur consentement, comme on pourrait le faire si on était protégé par un droit d'auteur. Les actions qu'ils auront à leur disposition, ça sera plutôt autour de ce que l'on appelle la concurrence déloyale, le parasitisme. Je ne sais pas si nos auditeurs sont familiers de ces Alors, en deux mots, hein, le parasitisme à concurrence déloyale, c'est le fait de s'inscrire dans le sillage d'un artiste ou d'une personne qui a créé quelque chose pour essayer de profiter de sa renommée. Voilà, je dis de manière très simple, c'est ça. Et donc, c'est les seules actions.
Ah, ça coupe.
Du droit d'auteur, parce que. Il me semble que si la part de la machine ou la génération de l'image numérique par un système d'intelligence artificielle est plus importante que la part de l'artiste, et ben à ce moment-là, pourquoi lui accorder un droit d'auteur?
Alors, moi, je trouve ça sévère. Et en fait, moi, je serais, enfin, toute considération juridique gardée, je trouve ça très, très sévère pour le maniement de l'IA et encore plus sévère pour l'art génératif que, si tu veux, on a des programmes informatiques, le logiciel, il est couvert par le droit d'auteur. Et pour moi, les œuvres d'art génératif ou le code, alors, pour le coup, a une grosse importance. Ben, on pourrait les assimiler d'un point de vue du droit d'auteur à un logiciel et donc ils seraient protégés par le droit d'auteur. Parce qu'il y a un vrai investissement intellectuel particulier dans à chaque fois des choix pour déployer une œuvre, puisque c'est en fonction, si tu veux, du résultat que ça donne que les artistes vont, moi j'appelle ça vraiment des artistes codeurs, vont modifier le code. Donc il y a une interaction entre le code et l'œuvre finale. Donc pour moi, si j'avais à soutenir ça, je dirais que on a tout à fait un travail d'auteur, de créateur d'une œuvre de l'esprit, alors que tu l'appelles artiste ou pas, mais pour moi ils sont artistes parce que
alors, j'essaie de, alors je vois avec ma compréhension limitée de ces sujets, j'essaie de résumer ce que je comprends au niveau oui. des collections dont on parle. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs sujets, c'est pour ça aussi que c'est complexe. Sans rentrer dans l'intelligence artificielle, parce que c'est un, limite c'est presque un débat dans le débat qui est déjà énorme, parce qu'en effet, c'est une question complexe, hein, mais toutes les AI qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit Midjourney, ChatGPT ou autre, bon, bah, en effet, se sont quand même allègrement servis de contenu public ou privé d'œuvres. Et donc, forcément, bon, il y a un apprentissage qui s'est fait dessus, ce qui me permet de, si je veux faire quelque chose dans le style de n'importe quel artiste, je peux le restituer. Et donc, il y a quand même il y a une question qui se pose là, mais qui est une question presque, qu'on n'aura pas fini de poser, je pense, pendant assez longtemps, parce qu'elle est assez complexe. Mais au-delà de ça, juste pour revenir sur les collections d'art génératif, donc justement, c'est Bored Ape ou c'est CryptoPunk, même si c'est un algorithme, alors, l'algorithme de création de ces œuvres, Ingrid, est plutôt basique, en fait. Ça veut dire que c'est quand même, il n'y a pas de R&D, enfin, à vite pour les CryptoPunk, ça pouvait le faire, parce que c'était peut-être là. Les premiers à le faire, donc ils ont fait une innovation technique. Les Bored Ape, puis il n'y a pas eu de grande innovation technique quand ils ont lancé. Ils utilisaient un peu un smart contract assez classique. Il n'y a pas eu de vrai R&D, j'ai envie de dire, qui est protégeable en tant que tel. Tu vois.
Et tu vois, par exemple, je vois par rapport à notre chroniqueur Camille Roux. Mm-hmm. Là, pour moi, je pensais plutôt à ça.
Oui.
Tu vois.
Alors, ça, je suis d'accord. Alors, du coup, juste pour revenir quand même sur les Bored Ape ou les CryptoPunk. Même si je comprends bien, il serait pas. Enfin, si demain d'autres personnes créent des choses qui ressemblent, c'est difficilement protégeable. Je me pose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas une notion quand même, ne serait-ce que visuellement, je crée quelque chose qui est très très proche visuellement d'un CryptoPunk ou d'un Bored Ape, Yuga Labs va m'attaquer pour parasitage. Et d'ailleurs, ouais. C'est un peu ce qui s'est passé quand tu nous en as parlé la semaine dernière, ouais. Ingrid. Pour l'instant, ils sont plutôt en train de gagner leur procès aux États-Unis sur ces sujets-là, quoi. Même si c'est une collection de 10 000, non?
Ouais, c'est une collection. Dans les deux cas, il y a une collection. Mmh. Et là, il n'y a pas eu la qualification de contrefaçon. Il y a eu contrefaçon de marque, mais ça, c'est encore autre chose. Et sur la caricature, elle a été rejetée. Donc en fait, la qualification d'œuvre de l'esprit a priori a été rejetée. Mais là, on a eu quand même, c'est pas indiqué comme tel, mais on a eu quand même une reconnaissance de la collection qui avait une valeur en tant que telle.
Tout à fait. Et en
ah mince, Rémi, qu'est-ce qui se passe là?
Ah ben je sais Amélie. Pas, c'est Amélie, ça vient de chez Amélie. Hein.
Oui. Amélie, tu disparais de temps en temps.
Désolée. Est-ce que ça va là? Ouais. Je vous disais que pour moi, c'était vraiment la meilleure action possible pour défendre ce type de collection, le parasitisme. C'est-à-dire arriver à démontrer que son concurrent s'est inscrit dans ce sillage et essayer de profiter de manière indue de cette renommée. Et pour ça, il faut arriver à démontrer que la collection, elle a une valeur économique individualisée, c'est-à-dire qu'elle a une valeur propre. Et c'est assez facile pour la collection des Bored Ape. Donc ça, c'est une action, et il me semble que cette action-là est celle qui prospérera le plus.
Vas-y. Ça a recoupé. Mais j'ai compris ce que tu disais, Amélie. Et je comprends donc aussi que la protection d'une collection, comme le font du coup les Bored Ape, ne se fait pas au nom du droit d'auteur et de la création artistique ou de la notion d'œuvre, mais simplement au nom du parasitage économique, de la même manière qu'un ArcelorMittal, c'est mon exemple du moment. Non mais de la même manière qu'une boîte comme je sais pas Renault, Peugeot pourrait accuser une autre boîte qui fait des voitures de parasitage s'ils utilisent des éléments de leur marque. Finalement, c'est plus au niveau de la marque. On va plus se trouver dans l'univers d'une marque et d'un parasitage économique qu'un parasitage artistique, quoi. C'est ça.
Là, c'est valable, à mon avis, pour les œuvres qui sont générées uniquement par un algorithme. Mais ce serait, à mon avis, différent quand on est sur des œuvres d'art génératif pur. Tu vois, par exemple, une collection d'œuvres d'art génératif de Camille Roux ou une collection d'œuvres de Pascal Bouillard. Là, je pense qu'on aurait une appréciation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en pense Amélie, mais je pense qu'on aurait une appréciation différente. Donc, quand on a des CryptoPunks ou des Bored Apes, oui, c'est l'appréciation, la protection par le parasitisme et la concurrence et la fausse désignation parce qu'ils ont soulevé aux États-Unis. Par contre, moi, je dirais que c'est l'addition d'œuvres de l'esprit quand on a une collection avec des artistes qui ont un style particulier. Voilà, pour résumer, ça c'est un peu ma position si je devais plaider. Mais,
qu'est-ce que ça offre quoi de plus? Parce que ça offre quoi de plus le d'être considéré, d'être considéré comme un.
Comme une œuvre de l'esprit.
Comme une œuvre de l'esprit.
Ouais, en tant que collection. Je veux bien qu'Amélie reprenne la parole parce que je pense qu'elle a. Il y a un régime qui s'attache à une collection, qu'elle soit protégée ou pas par le droit d'auteur. Il y a un régime juridique, notamment par rapport aux legs. Et là, j'aimerais bien qu'elle nous en parle.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, le retour. Ouais.
Est-ce que tu as entendu la question de John?
J'ai entendu la fin de la question. Donc, si je la répète, c'est qu'est-ce que ça offre, en fait, le droit d'auteur? Ça permet de s'opposer à toute reproduction sans le consentement. Donc, il suffit de démontrer qu'il y ait une reproduction de l'image numérique qui a été créée pour pouvoir bénéficier d'une action en contrefaçon.
Sur la collection en tant que telle.
Alors, sur la collection, si la collection est reconnue en tant qu'ensemble comme une œuvre de l'esprit ou sur l'image numérique individuelle. On peut avoir les deux niveaux. Ça, c'est intéressant, je trouve. On peut avoir à la fois le niveau protection d'une image numérique et puis on peut avoir le niveau protection par le droit d'auteur de l'ensemble des images numériques qui va former une cohérence au titre de la collection.
Ouais, tu vois, alors moi, pour répondre à ton objection, John, et dis-moi, Amélie, si tu es d'accord, moi, je pense que les CryptoPunks et les Bored Apes, en eux-mêmes, mais c'est ma position, ne forment pas des œuvres de l'esprit. En revanche, sur la collection entière, on peut se poser la question. Et là, moi, je n'ai pas de position là-dessus, peut se poser la question. Qu'est-ce que tu en penses, Amélie?
C'est une bonne question. Je pense qu'il faut, à un moment donné, regarder comme les Bored Ape sont générées de manière quand même assez aléatoire, assistées par un système d'intelligence artificielle. Encore une fois, je ramène à ce critère de quelle est la part créative de l'artiste, enfin de l'auteur là-dedans. Et si la part créative de l'auteur est suffisante sur l'ensemble, sur cette génération de la collection, alors là, oui, il pourra y avoir un droit d'auteur. J'espère que ce critère est simple à saisir pour nos auditeurs.
John, Rémi ?
Non, je comprends la notion d'apport créatif. Après, de mon point de vue, alors déjà, bon, alors les Bored Apes, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme aléatoire, mais avec des assets prédéfinis comme les CryptoPunks, ça veut dire c'est quand même très très cadré, ils ont tous la même forme, la même place pour les yeux, pour la bouche, pour le, enfin ils sont.
Mais il y a des traits, quoi.
C'est juste un algorithme qui va interverser des calques qui sont pré-créés par les auteurs.
Oui, tout à fait.
Donc c'est, enfin pour moi, je trouve, j'ai, enfin dans ces cas de figure, je pense que, enfin de mon point de vue, je pense qu'on surestime peut-être un petit peu l'outil, qui est finalement un outil assez simple, qui est, au même titre qu'un Photoshop ou autre. Finalement, ils auraient pu même, en fait, j'aurais pu même être fait à la main. Il y en a certains d'ailleurs qui font des collections PFP de 10 000 pièces à la main. C'est juste que l'algorithme accélère la génération. Et l'algorithme, en effet, ajoute un facteur de hasard, mais qui est lui-même prédéfini. Parce qu'en général, ils définissent qu'il y en aura 5 qui ont 5 en or, 50 qui ont des lunettes 3D ou ce genre de choses. Donc finalement. Enfin, moi, j'aurais tendance quand même, de mon point de vue, mais je ne suis pas juriste, à remettre l'outil à la place qu'il a, ça veut dire un outil. Et là, et autant pour certaines collections, peut-être justement d'intelligence artificielle, si demain, en effet, j'entraîne un algo... Enfin, demain, je demande à Midjourney de me sortir la tête de John Carpe dans le style de Monet. peut-être que là, en effet, il y a la notion de qu'est-ce qu'a mis John Carpe là-dedans pourrait se poser, mais je trouve que sur des collections PFP, pour le coup, qui ont en plus leur style propre, ça veut dire que quand tu vois un Bored Ape, tu sais que c'est un Bored Ape, et je pense que c'est aussi quelque chose quand même de caractéristique. Quand tu vois John Carpe en Monet, tu dis c'est peut-être un Monet, mais moi j'ai le sentiment, en tout cas, mon sentiment de béotien est que. Sur ces outils et sur ces collections, l'apport quand même des créateurs, qui ne sont peut-être pas des artistes d'ailleurs, mais c'est des entreprises, des auteurs, ça dépend des cas de figure, mais cet apport-là est quand même significatif selon moi.
Amélie, moi j'ai une idée, mais qu'est-ce que tu en penses ?
Eh bien, pour ma part, l'apport de l'auteur, de l'artiste sur ces types de collections, je le vois plutôt sur les accessoires, c'est-à-dire tous ces éléments qui constituent la base, par exemple la forme du singe, la forme des casquettes, les lunettes, le choix des couleurs, etc. Donc toute l'accessorisation peut éventuellement être faire l'objet de choix créatifs, ça oui. Est-ce que l'ensemble et sa génération automatique, un peu aléatoire, prend le pas sur les choix créatifs ? Là, j'ai un doute, j'avoue.
Moi aussi, pour un critère juridique, John, qui est le critère des contraintes techniques. Et les contraintes techniques sont à l'opposé de la notion juridique, mais de libre choix créatif. Mais cette notion, elle est super forte dans le droit d'auteur. Et à mon avis, mais c'est mon avis, mais on n'a pas de jurisprudence,
non.
Même dans la jurisprudence américaine. Les avocats l'ont évoqué dans leur tu sais, dans les board apps, c'est 120 pages d'assignation. C'est pour ça que si on a envie de se plonger, ils ont fait un boulot d'enfer. Et il y a quand même 1 million d'honoraires qui sont derrière. Hein. Donc, il y a plusieurs experts qui sont intervenus. Et même là-dessus, d'abord, c'est pas les mêmes critères. Mais nous, je pense qu'on aurait la contrainte technologique, peut-être, qui prendrait le pas dessus. Et donc, du coup, peut-être à part les accessoires, s'ils sont très démarqués, on aurait quand même un doute là-dessus.
Oui, mais quand même, enfin, excusez-moi, enfin, tout est démarqué. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi, un board ape, malgré tout, le style et la création, j'en ai dessiné un, j'en ai vu 10 000. Après, c'est juste des facteurs aléatoires mineurs qui changent, mais enfin, on est quand même sur un style. Enfin voilà, tu de voir. Enfin, il y a ces accessoires et ces singes qui font d'ailleurs que parmi les 10 000 collections qui sont sorties, c'est celle-là qui a aussi à émerger. Enfin, il y a une somme de choses, mais c'est parce que c'est enfin, il y a un style, il y a le travail artistique initial. Qui a défini ce qu'ils sont. Après, oui. Bon, il y a des. Enfin, ces accessoires et ces singes, c'est quand même. Encore une fois, avant même d'avoir lancé, il y en a peut-être une dizaine qui sont dessinés, ou une cinquantaine qui sont dessinés à la main. Et il y a déjà, la collection existe déjà à ce moment-là, finalement.
Ouais, mais John, tu vois, moi, en réplique, je dirais que quand on compare avec une œuvre d'Agoria, de Rafik Anadol, on voit bien que, franchement, il y a un écart sur la trace de la créativité, de la genèse de la créativité. Et moi, je soutiendrai ça, et je pense que le juge sera sensible à ce genre de choses, même si, comme dit Amélie, on ne tient pas compte du mérite, mais là, on serait vraiment sur la genèse de l'œuvre, et on voit bien, par exemple, Agoria, quand il parle de ses œuvres, qu'il a une vraie démarche particulière. Et je sais pas, franchement, moi j'ai un doute si elle serait assimilée par une génération, comme tu le dis, d'algorithmes avec un hasard et des notions prédéfinies, voilà. Mais bon, le débat est ouvert, hein, tu vois.
Oui, et je pense qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant définitive. Après, ne pas reconnaître une protection au titre du droit d'auteur ne signifie pas de protection du tout, hein. Ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on est, c'est pas parce qu'on ne, on n'actionnera pas, on n'assignera pas en contrefaçon de droit d'auteur qu'on n'a plus aucun moyen de défendre cette collection. Et encore une fois, je pense que l'action la plus prospère devant les tribunaux est celle qui a prospéré aux États-Unis pour Board Ape Yacht Club. C'est l'action en concurrence déloyale, en parasitisme. C'est chercher à capter la valeur économique parce que effectivement, dès qu'on voit une collection avec ces singes, on l'associe directement.
Ouais, et puis aux États-Unis, on met aussi la notion de tromperie sur l'origine.
Aussi, effectivement.
Ouais. Mais en fait, moi, j'ai le sentiment que le débat se situe plutôt au niveau de l'entité qui, enfin, de ce que je comprends. Sur le droit d'auteur, c'est la question, je la résumerai peut-être plus dans ma compréhension, est-ce qu'il y a un auteur identifié dans la mesure où là, c'est Yuga Labs, enfin là, c'est beaucoup de ces collections PFP sont plutôt portées par des startups, on va dire, plutôt que par des artistes qui ont certes embauché à un moment T un designer pour réaliser, ou un artiste pour réaliser leur création. Finalement, on va tout de suite être beaucoup plus dans le droit commercial que dans le droit d'auteur. C'est ça ma compréhension, ma
question. Ouais, exactement.
Alors, bien souvent, elles se protègent, hein, ces sociétés, quand elles embauchent des freelances ou même quand elles ont des designers salariés. Hein, y a un mécanisme qui va permettre, si toutefois on reconnaît un droit d'auteur, de faire remonter, entre guillemets, ce droit d'auteur au niveau de la société et dont le droit d'auteur appartiendra à la société. Ce qu'on appelle le mécanisme des œuvres collectives.
Donc, oui. Si tu veux, effectivement, sous l'angle d'une collection, on pourra avoir ce mécanisme-là, ou en fonction de l'appréciation, le mécanisme du droit commercial. Donc on est sur un débat, mais auquel cas, on pourra toujours trouver un moyen de protéger la collection, soit par, comme disait Amélie, l'action en contrefaçon, commerciale sur la concurrence parasitaire déloyale, la fausse origine, enfin, ce qui a été développé, ou bien carrément la contrefaçon du neuf si dans la collection entière, on arrive à retrouver d'autres critères qu'on va pas développer là, mais voilà. Et il y a une autre qualification, et là, ça va avoir un effet comme au-delà de la défense sur la valorisation par le legs, il y a une qualification dont tu parles qui est l'universalité de fait. Et donc, ce serait aussi une protection qui n'est pas liée au droit d'auteur.
En effet, en droit, on a une possibilité de saisir des ensembles, donc des collections, mais ça peut être des livres dans une bibliothèque, par exemple, de saisir un ensemble de biens ou de choses qui composent cet ensemble, non de manière individualisée, mais pour l'ensemble. On appelle ça des universalités. Et donc, effectivement, j'ai proposé cette qualification d'universalité au niveau des collections de NFT pour faciliter, il me semble, la transmission de ces collections, notamment par le legs, mais on pourrait aussi l'envisager par donation. Alors, pose la question une fois que cette question juridique est dépassée, enfin qu'on arrive à transmettre l'ensemble et non œuvre par œuvre. Se pose après la question de la valorisation de la collection dans le cadre d'une transmission successorale, premièrement, et deuxièmement, l'aspect technique de la transmission, parce que on n'est pas sur la transmission d'une chose matérielle facilement que l'on peut réceptionner facilement. On est sur la transmission d'une chose immatérielle qui plus est bien souvent protégée par un accès que l'on a soigneusement verrouillé de son vivant. Donc voilà, il y a une question technique de la transmission d'une collection qui me semble importante.
Ouais. Et est-ce qu'on pourrait, dans ce cas-là, assimiler, en dehors de l'obstacle technologique, transmission de biens informationnels qui sont un type de biens immatériels?
On peut l'imaginer. La seule chose, c'est de. Il faut bien distinguer toutes les discussions qu'on a pu avoir avec les musiques que l'on a sur son Apple Store, par exemple, ou divers objets immatériels qu'on aurait achetés. Je mets entre guillemets.
Les bibliothèques doivent. Oui. Ouais, d'accord.
Sur lesquelles les grandes plateformes considèrent que l'on n'a pas un véritable droit de propriété sur ces objets immatériels, mais que l'on a simplement un droit d'usage. Donc là, on a un petit peu plus de jurisprudence, on a des textes qui viennent préciser la part de la propriété que l'on a sur ces bibliothèques, et résoudre la question de la transmission sur ces ensembles. Il me semble qu'il faut distinguer ici la propriété, pour le coup c'est une véritable propriété, que l'on pourrait avoir sur ces sous-jacents numériques, ces images numériques qui sont auxquelles sont associées des NFT. Et cette propriété, bien qu'immatérielle, serait susceptible d'être transmise par voie de, entre vivants par voie de donation ou à cause de mort par legs.
D'accord, donc si je résume, effectivement la collection, qu'elle soit protégée ou pas par le droit d'auteur, peut faire l'objet d'un legs et d'une donation qui aura une valeur. Alors là, on ne va pas rentrer dans l'appréciation du fisc, parce que il y a le moment où on apprécie la valeur par rapport, et là il peut y avoir une variation évidemment de la valeur de l'Ether, ou même du Bitcoin aujourd'hui, par rapport aux collections qui sont maintenant sur le Bitcoin. Et donc voilà, on peut tout à fait organiser, et ce sera valable, si je comprends bien.
Alors, j'ai fait une distinction qui est peut-être… Je vais essayer de la détailler. J'ai précisé que l'on pouvait céder l'image numérique. Mais on n'a pas nécessairement sur l'image numérique les droits d'auteur. C'est-à-dire que quand j'achète un NFT, je vais détenir l'image numérique, mais je ne détiens pas le droit d'auteur qui va me permettre, si cette image est protégée hein, au titre du droit d'auteur, je ne détiens pas le droit d'auteur qui va me permettre de la reproduire sans l'autorisation de l'artiste qui est derrière.
Donc, s'il y a une licence.
Sauf s'il y a une licence, effectivement. Sauf si on a organisé cette possibilité. Mais ce point-là est important. Donc, qu'est-ce que je transmets à mes héritiers? Eh bien, je transmets une image numérique, point. Et mes héritiers auront le droit de détenir l'image numérique, de l'afficher dans leur collection, etc. Mais ils ne pourront pas la modifier sans l'accord de l'auteur ou bien la reproduire sans l'accord de l'auteur, etc. si, encore une fois, elle est protégée par un droit d'auteur.
D'où l'importance d'inclure des licences spéciales dans les NFT qui vont valoriser finalement les œuvres quand on va les œuvres et la collection d'œuvres quand on va la transmettre à ses enfants ou quand on va le léguer à quelqu'un en particulier.
Bah, si l'artiste le souhaite, parce que je pense qu'il y a des artistes qui ne souhaitent pas nécessairement vendre leurs images numériques et permettre aux acheteurs de modifier leur image numérique ou leur création numérique. Ça tout dépend des artistes. Hein. Il y a des artistes qui sont relativement… qui considère qu'une fois publiée, elle appartient cette image numérique aux acheteurs et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils souhaitent.
Ah, c'est zéro, ouais.
Voilà, c'est ça. Et d'autres qui vont avoir une conception un peu plus forte, un lien un peu plus fort, un peu plus romantique presque avec leur œuvre, ils vont considérer que c'est la leur. Et que ils ne souhaitent pas transmettre la possibilité aux acheteurs des NFT de la modifier ou de la reproduire tout simplement.
Alors j'aimerais bien qu'on regarde. J'ai pas vu Rémi, s'il y a des questions.
J'ai plein de questions.
Ah
mais
vas-y.
Alors vas-y, sélectionne-en une ou deux là, parce que là on est…
Ouais, non, mais ça va être compliqué de les sélectionner, mais en fait, je voudrais qu'on se place en fait du point de vue du collectionneur.
Alors, là, c'est même pas les questions du public là, c'est les questions de Rémi, donc là on en a vraiment pour une heure.
non, mais j'aimerais bien qu'on se place en fait du point de vue du collectionneur, et je me demandais en vous écoutant, est-ce que finalement… il y a une différence pour un collectionneur de posséder une collection d'œuvres d'art digital ou une collection d'œuvres d'art réelles. Est-ce qu'il y a, selon la loi, il y a une différenciation, un statut juridique particulier?
Oui, au niveau des impôts. Au niveau des impôts, on n'aura pas… on va être taxé sur les actifs numériques… Si on a une collection de NFT et puis on a tout un arsenal législatif relatif au marché de l'art pour les collections d'art graphique ou on va dire plus matériel.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer?
Changer cette taxation, changer, ouais. le,
Ouais.
Eh bien, je ne sais pas.
J'avoue en fait, ça revient à la question de finalement de dire est-ce que peut-être pas tous les NFT, mais les NFT qualifiés d'artistiques peuvent avoir finalement le même statut qu'une œuvre d'art classique.
Tout dépend en fait ce que l'on va chercher à capter comme valeur que l'on va imposer. Est-ce que c'est la plus-value sur l'achat, la revente de NFT, ou est-ce qu'à un moment donné, on va regarder la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire de l'image numérique, sur un marché de l'art déterminé. Mmh. Est-ce que je suis claire?
Oui, enfin, pour moi, c'est très clair.
Oui, et donc, je pense qu'il faut distinguer ici... un marché de l'art peut tout à fait être, une image numérique peut tout à fait entrer dans le marché de l'art et suivre les règles d'imposition de ce marché. Mmh. En revanche, si on cherche à taxer les profits réalisés au terme de la spéculation réalisée par ces actifs numériques, eh bien, on sera plus proche du Code général des impôts. De mémoire, je crois que c'est les articles 54-10-1 du Code monétaire et financier, mais il faudrait que je vérifie ce point.
Et après, oui, désolé, vas-y Ingrid. Ah
non, je voulais juste prendre une ou deux, il nous reste peut-être 5 minutes encore, une ou deux questions du public, si ça t'ennuie pas.
Alors attends, juste... en fait, je me demandais aussi si la collection impliquait un acte volontaire. C'est-à-dire, est-ce que le fait de posséder des NFT juste sur un wallet constitue une collection, en sachant que finalement, je peux acheter un NFT et recevoir par airdrop ou par en cadeau d'autres NFT. Donc, on en revient à la question. Donc, est-ce que la collection, c'est à la fois plusieurs, un ou plusieurs...
Non, je pense pas.
Non, ça, on est bien d'accord. Mais est-ce qu'il y a un acte volontaire dans le fait de collectionner?
Alors, oui, toujours, il y a un acte volontaire. Donc, encore faut-il savoir ce que l'on veut attacher comme droit à cette collection. Est-ce qu'on veut pouvoir transmettre cette collection, entre guillemets, à nos héritiers, auquel cas on peut la saisir parce que je disais tout à l'heure une universalité. Est-ce que cette collection peut être cédée de son vivant dans son entièreté et chercher à attacher une valeur particulière à cet ensemble parce que à un moment donné, on l'a constitué sur du long terme, sa diversité, etc. Eh bien, à ce moment-là, on peut jouer sur la valeur de cette collection et ainsi impacter l'acte de cession de cette collection. Donc là, oui, il y a une volonté qui est très marquée. Et enfin, il y a la dernière hypothèse, c'est le collectionneur, qui d'ailleurs est un personnage qui est complètement inconnu de nos codes juridiques, le collectionneur qui se dit « Eh bien moi, je vais mettre en place une véritable stratégie, une stratégie artistique, parce que je veux que les choix que je vais faire dans les différentes images numériques représentent au total, pour la somme que la collection va réaliser, représente une œuvre de l'esprit en elle-même. Et là, on aura une véritable stratégie artistique de la part du collectionneur qui va se dire les choix artistiques que j'ai opérés sont délibérés, sont volontaires. J'ai choisi telle image, je l'ai composée à tel moment avec telle autre, enfin, dans ma collection, elle est présentée comme ça. Il y a un véritable parti pris ici. Et là, on peut même aller jusqu'à accorder, ce dont on parlait tout à l'heure avec Ingrid, un droit d'auteur sur l'ensemble, sur la collection, parce qu'il y a eu ce véritable choix artistique fort. Et toute reproduction de cet ensemble, sans le consentement du collectionneur, pourra faire l'objet d'une contrefaçon, d'une action contrefaçon.
Et est-ce qu'en fait, désolé, je suis obligé de rebondir, mais est-ce que ça implique une finitude de la collection, c'est-à-dire que peut-être qu'au décès... Non, d'accord.
Ça, c'est une super question. Ah. Non. Ça avait été jugé pour différentes affaires en droit d'auteur, mais pas sur des objets immatériels, sur des objets matériels. Et non, le juge n'a pas pris ce critère en considération.
Génial. Ben, merci beaucoup. Place aux auditeurs.
Ouais, une petite question, ou une ou deux rapides. Pas rapide, je sais pas. Mais... Il y en a, Rémi, je les vois pas, moi.
Ah, moi, pardon, désolé. J'étais pas sur le chat.
Je vais dire les questions. Tu vois, je suis présent sur les questions. Alors, on revient un petit peu sur la discussion qu'on a eue là, donc, avec Metafrogi, mais c'était un peu proche de la réflexion que j'avais faite sur est-ce que l'œuvre de l'esprit n'est pas l'étape de réflexion créative ou autre et que la fabrication n'est qu'un moyen d'exprimer son art. Donc, c'est un peu le retour un peu de la vision que j'ai un peu moi aussi malgré tout, qui est de réduire quand même une grosse partie de ce processus technique à un outil. Il donne l'exemple de Réfi Canadol qui est exposé au MoMA, qui pense que l'esprit et la tech soient autant intégrés, et pourtant on est d'accord que c'est de l'art, ou le MoMA le présente ainsi. Bon, ça c'est... voilà, ça a un point de vue sur le... En tout cas sur l'apport...
Enfin, oui.
L'apport de Réfi Canadol dans cette création, en tout cas.
Oui, mais je trouve que là, vraiment, la réflexion et trouver la ligne de partage entre ce qui va être protégé par du droit d'auteur et ce qui ne le sera pas. On a un exemple hein, dans l'histoire de l'art avec l'appareil photo. Et je pense que c'est tout à fait semblable. Jusqu'où l'outil n'est que technique.
Très bien. Non, mais je pense que c'est une bonne réflexion. Il y a Dim Dam qui dit « On est d'accord que le manque de protection pour la propriété intellectuelle... » Alors, ce n'est pas la propriété intellectuelle, c'est le droit d'auteur, du coup.
C'est la même chose.
Ah, d'accord.
Ouais. Alors,
donc la propriété intellectuelle n'enlève pas ou n'annule en aucun cas celui de la protection de preuve de propriété de celui-ci. Je pense qu'en effet, on est d'accord. Ça ne remet pas en question le fait que quand tu as un NFT, tu possèdes ce NFT. Enfin, mais je ne sais pas si vous voulez répondre là-dessus.
Oui, oui. Bon, moi, je suis complètement d'accord.
Ah ben, je pense qu'il faut effectivement être vigilant sur la titularité de l'image sous-jacente au NFT, oui.
Oui. Et Thomas qui nous dit « Bonjour, juste une question. Ben, » Ça, on a beaucoup parlé aussi, du coup. C'était au début de la room. Donc, sur le cas d'une collection comme CryptoPunk, est-ce que c'est la collection entière qui est une œuvre ou chaque CryptoPunk est considéré comme une œuvre d'art? C'est un peu une question, justement. On a été plutôt réservé. Même si là encore, et en plus, a fortiori pour les CryptoPunk, moi j'aurais tendance à avoir un point de vue différent.
Ouais.
D'ailleurs, le fait qu'on ait déjà des CryptoPunk uniques exposés dans des musées, je pense que ça donne déjà des pistes aussi, enfin dans des musées d'art. Et d'art contemporain, je pense que ça donne des pistes assez importantes quand même sur la manière, en tout cas, je ne sais pas le droit, mais en tout cas, le commun des mortels considère cette collection.
Bah, sauf si tu considères que le musée possède un 10 millième de la collection. S'ils en possèdent un.
Un dix millième de l'œuvre.
Un dix millième de l'œuvre, oui, pardon.
De l'œuvre que constitue la collection.
Oui, ouais. C'est une réflexion aussi. D'ailleurs, c'est une... Donc,
malheureusement, sa place dans le musée fera pas la qualification d'œuvre de l'esprit,
ou même d'appartenance à une collection.
Mais ils peuvent être affichés dans un musée comme élément de et ça, je pense que c'est un élément très fort de l'histoire de l'art. Enfin, à un moment donné, si on les considère comme artistiques, ils font partie de cette histoire de l'art. Et cette présence dans les musées, il me semble, doit être déconnectée de la qualification elle-même d'œuvre de l'esprit ou d'accorder ou pas des droits d'auteur.
Bien sûr. C'est intéressant. Mais je pense qu'en effet, à mon avis quand même, on est un peu dans le présent, et moi j'ai le sentiment quand même que dans 10 ou 20 ans, ces œuvres-là sont, quoi qu'il arrive, qualifiées d'œuvres de l'esprit, parce que je pense que c'est la modernité des sujets qui nous donne assez peu de recul, et, mais c'est mon point de vue personnel, hein. Et j'ai le sentiment quand même que... Pourquoi, comme on le disait sur la photographie, pourquoi pas en fait.
La photographie, elle a mis très longtemps à être protégée.
C'est ça.
Même maintenant, il y a encore des contestations qui sont venues avec l'utilisation des smartphones qui permettent d'avoir des œuvres photographiques facilement. Et même que tu peux retoucher encore facilement. Pendant plusieurs années, après la loi de 57, qui est la loi fondatrice du droit d'auteur en France, tu as eu la distinction entre photos documentaires et photos artistiques. Et c'est la loi Lang de 85 qui a aboli cette distinction.
C'est
donc, tu vois,
ça a mis 30 ans.
Ouais.
En effet, voilà. Je pense que c'est pour ça que je pense que c'est... Voilà, je pense que le c'est une question de, enfin pour selon moi c'est une question de temps, mais en tout cas c'était passionnant et je voulais vraiment te remercier Amélie d'avoir été avec nous ce matin. C'est un super sujet et c'est quoi le mieux pour si on s'intéresse à ce que tu fais, c'est de te suivre sur les réseaux.
Oui. Alors vous êtes très certainement la seule raison pour laquelle je reste connectée à Twitter.
Alors là, on rougit.
Je vous approuve.
On va envoyer un petit message à Elon. On va dire regarde.
Spéciale dédicace. Et après, non, plutôt sur LinkedIn, donc, ouais. Sur mon activité. Et le livre dont tu parlais, dans lequel j'ai écrit cet article sur. Alors, je me suis plutôt intéressée aux collectionneurs. De NFT plutôt qu'à la collection elle-même, parce que l'image du collectionneur, comme il n'est pas saisi par le droit, il m'intéressait. Et le livre s'intitule NFT et droit, regard croisé sur une innovation numérique, et il a été publié sous la direction d'Alexandra Mendoza Caminade et Hélène Poujade, qui sont également chercheurs à l'Université de Toulouse et qui s'intéressent beaucoup à ces questions. Voilà.
Et Amélie, il y a ton livre qui va arriver, sur lequel on te recevra avec grand plaisir.
Carrément.
Ouais, les smart contrats, et il y a les super contributions qui vont arriver aussi. Voilà.
Donc, merci de m'avoir invité. J'étais ravie de parler avec vous ce matin
de
tous ces sujets.
Bah, merci beaucoup. Et puis j'en profite juste aussi pour passer des petites actualités.
Bah, merci déjà, Amélie.
Déjà.
Ouais, vas-y, John.
Voilà, avant de clore cette room aussi, juste c'est Louis-Paul Caron qui m'a partagé cette news qui était sous mon radar. Il y a une vente aux enchères, en fait, qui a lieu. Donc, vous pouvez le voir sur le site Draw Online. Et donc, c'est une vente aux enchères qui est
c'est la première.
En fait. C'est la première.
Sur Draw Online, ouais.
Ah bon? Tu vois.
Je crois qu'il y en avait.
Chez Drew, en tout cas. Directement.
Moi, peut-être.
Non, il y en avait. Excuse-moi, je crois qu'il y en avait une autre au début du mois d'avril. De mémoire,
peut-être
raison. Hein.
En tout cas, je vous partage le lien. En fait, c'est la maison. Enfin, c'est Blanchet et Associés qui l'organisent. Et donc, c'est un mélange. Donc, la vente s'appelle Hacking Painting. Et c'est un mélange de street art et d'art numérique. Et on va retrouver du coup de différents noms cités d'ailleurs dans cette room de l'art numérique dans les ventes, notamment un compound d'Agoria, une machine à l'affination de Réfika Nadal, un burner.
C'est celle-là.
C'est la première. Et ben voilà. Donc un burner de Crash Blossom, James Blossom maintenant. Un Sun Signal de Kevin Abosch, un Louis-Paul Caron, donc une pièce de Louis-Paul Caron de 95, le Denny Collection, un Pascal Boyard, un Dollar Nakamoto de Pascal Boyard, un Lorenz Fuller, enfin j'en cite quelques-uns, je vois, un Rob Ness, voilà, je suis dessus, voilà, je descends, donc il y a, on va voir, c'est toujours intéressant de voir comment, enfin si, si ça, ça enfin si ça, comment ça se passe,
on va si dire, ça s'excite,
si ça s'excite ou pas, voilà, c'est intéressant de voir ça, et voilà, je vois qu'il y a du Ville, il y a un Ville, c'est aussi bon, pas mal d'artistes qu'on connaît, qu'on suit. Donc voilà, on vous a partagé le lien et ben en tout cas voilà, bah merci beaucoup Ingrid.
Bah attends hein, attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, Ingrid, bah, le mois prochain on va parler de si.
Le mois prochain, écoute, je me souviens plus.
Bon, on va parler de cinéma en direct de Cannes.
Ah oui, bien sûr, on est au mois de mai. Oui, oui, on va parler en direct de Cannes comme on fait d'habitude.
Exactement.
On va parler de Tech Cannes et aussi de Mathieu Viala avec Frac, qui a évolué vers un super modèle. Ouais. Donc, on va parler avec voilà, et j'aurai bien évidemment le plaisir d'intervenir sur blockchain et NFT. Et bon, alors on n'a pas parlé des meme coins, qui est encore autre chose, mais le sujet est inépuisable et on refera peut-être à la fin de l'année un point sur avec le livre d'Amélie, ce sera sympa.
Génial. Juste demain, pour finir la semaine, on reçoit, ou je reçois, parce que je crois que John, tu ne seras pas là. Michael Amar, on va parler de la Paris Blockchain Week 5e édition. D'ailleurs, si vous voulez y aller, on a un code réduction, on a moins 15%, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés pour que je vous les laisse. Et puis voilà, on va revenir un peu sur son parcours d'entrepreneur, d'investisseur et évidemment sur cet événement.
Mille fois merci Amélie, tu étais formidable comme d'habitude.
Et mille fois c'est gentil.
Merci à tous.
Merci.
Et puis au mois prochain avec Rémi, avec moi et vous tous, j'espère.
Et ben merci beaucoup et puis.
Merci.
Good morning.
Happy.
Ok Rémi, on ferme.
Ok, ben merci beaucoup.
Ouais.
Je crois qu'il y avait, je suis désolé, parce que il y avait Yvonne qui voulait intervenir, je crois. Ah mince, elle est partie.
Ouais, moi je vais devoir clôturer la room.
D'accord. Et ben, à demain alors.
Et bien, on refera.
Ouais, carrément.
En tout cas, merci de votre invitation.
Merci Amélie, merci. Ben, c'était très bien. C'était
très bien. Merci.
Reviens quand tu veux.
J'apprends toujours beaucoup de choses quand je discute avec toi.
Ah. Écoute, c'est vrai.
C'est une passion, voilà. Et encore, c'est pas terminé parce que à NFC, je vais voir tout ce que c'est que les meme coins.
Ah oui.
Et en plus, voilà, j'aurai vraiment le plaisir d'être au jury, premier festival de film AI. Alors j'en profite, voilà, pour aussi explorer tout ça. Et donc c'est pour ça que ça me permet d'avoir des insights. Parce que comme tu le sais, il y a beaucoup de juristes qui parlent, mais je ne sais pas si ils ont acheté beaucoup de NFT. En tout cas, moi j'en ai, c'est modeste, mais j'en ai et j'ai quelques artistes que je suis et que je collectionne aussi. Donc il y a des grands collectionneurs avec qui je parle, que je connais de la NFT Factory, Gaspard, voilà. Et donc du coup, je leur dirais d'écouter la room. Et nous communiquer, et puis on en reparlera évidemment.
Avec plaisir.
Bah, salut à